Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. Enfin, on se retrouve. C'est contre-histoire. En décembre, on a entrevu quelques mauvaises idées reçues sur le nucléaire, avec promesse de préciser comment s'en sortir, avec les points de vue de spécialistes à la fois savants et sincères. Ça existe, j'en ai rencontré. Cet extrait du petit manifeste du collectif Utopia, 3 euros dans les très bonnes librairies et dans les réunions militantes. Alors on y retourne. La brochure date de 2011. Et depuis, le Covid et la guerre en Ukraine ont quelque peu changé la donne. Mais pas le problème lui-même. Alors on va essayer de s'adapter. Le principe de base, c'est toujours le même. Faut arriver à diminuer les tendances de consommation et de production d'électricité grâce à l'efficacité dans la production et dans la consommation aussi. On va associer la sobriété avec des choix plus malins pour sauver notre goût du confort. Sinon, on va vers des mouvements sociaux qui vont tout faire foirer. Car s'en sortir, c'est encore possible si on accepte non pas de faire des sacrifices, mais de réfléchir un tantinet. La preuve, on a bien réglé le problème du trou de la couche d'ozone, presque sans s'en apercevoir. Bon, là, la recherche et la technique ont fait peut-être plus que notre civisme. Mais vous avez vu, c'est quand même formidable. Et on peut toujours laquer sa choucroute pour être belle. D'abord, Utopia nous dit que l'efficacité énergétique des moteurs moins gourmands, des énergies renouvelables et l'isolation des logements, c'est ça le meilleur moyen d'économiser les gaz à effet de serre, notre problème le plus urgent. Pour ça, plutôt que de tout jeter pour refaire tout à neuf, ce qui est très cher et grand producteur de gaz à effet de serre, on peut beaucoup de choses. On peut modifier les machines, leurs moteurs, équiper les logements, les isoler, organiser mieux les transports collectifs. On peut aider au meilleur choix en faisant un étiquetage environnemental plus rigoureux et précis de tous les produits. On peut encadrer la publicité pour ne pas mourir idiot. On peut interdire le chauffage électrique dans les logements neufs. On peut investir dans la recherche, pauvre recherche, si négligée dans notre pays. On peut y investir pour améliorer les rendements énergétiques, justement. On peut multiplier et simplifier les incitations fiscales pour les équipements écolos. C'est toujours contre-histoire. On peut développer les systèmes et réseaux de chaleur en co-génération. Qu'est-ce à co? Eh bien, ce sont tous les systèmes de récupération de la chaleur qui est produite par une autre activité que le chauffage. Par exemple, le chauffage urbain du Mirail. Il est produit par cette usine avec une immense cheminée. Mais cette usine, elle n'est pas faite pour faire du chauffage. Tous les Toulousains savent bien qu'elle est faite pour se débarrasser des ordures ménagères. Eh bien, on fait d'une pierre deux coups, on se débarrasse des ordures et en même temps, on produit de la chaleur que l'on récupère dans le chauffage des habitations du Mirail et même un peu plus loin. C'est le contraire des centrales nucléaires qui rejettent dans l'atmosphère ou dans les rivières des quantités de chaleur phénoménales produites en faisant chauffer par la fission nucléaire l'eau des turbines qui produisent l'électricité.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.
Alors après l'efficacité, la sobriété, c'est pas mal non plus. C'est d'abord lutter et supprimer le gaspillage, partout et tout le temps. Chacun peut commencer par y participer chez soi. Les résultats sont immédiats et impressionnants, surtout pour l'électricité et l'eau. Et les économies financières encouragent et développent l'imagination. Bien sûr, j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est le cas de dire. Mais je me suis toujours débattue avec un budget minimum et ça rend très écolo et pratique quand on ne peut pas faire autrement. Bien sûr, vous connaissez déjà beaucoup des petits trucs que je vais évoquer. Mais les avez-vous essayés? Tous. Par exemple, pour l'électricité. Débrancher le chauffe-eau juste avant la douche pour éviter le rechargement coûteux et inutile jusqu'au lendemain. Ceci, bien sûr, à moduler selon le nombre de personnes par chauffe-eau et selon la contenance du chauffe-eau. Si on n'a pas besoin d'eau chaude impérativement, quand on ouvre le robinet, on le positionnera d'abord sur eau froide pour se laver les mains ou les dents. Il n'est pas nécessaire de mettre le chauffe-eau en marche. Et si le robinet que l'on ouvre est éloigné du chauffe-eau, on perd la chaleur de l'eau qui court dans la conduite jusqu'au robinet et qui en sort d'abord froide parce qu'elle a réchauffé toute la longueur du tuyau avant d'arriver à destination. C'est seulement quand le tuyau est réchauffé que l'eau peut transiter jusqu'au robinet sans trop perdre de sa chaleur. C'est pourquoi on implante le chauffe-eau en général près de la douche. Et après avoir utilisé l'eau chaude pour se laver la tête ou du linge dans le lavabo, ne pas oublier de remettre le robinet en position eau froide pour éviter de faire redémarrer le chauffe-eau par mégarde et sans utilité par la suite. Ici Contre-Histoire, vous êtes toujours là? On préférera autant que possible le chauffage chaussettes pullover, car on prend froid par la gorge et par les pieds. C'est le warm cocooning. On s'y fait très vite et bien plus qu'on croit. On peut descendre le thermomètre jusqu'à 14 ou 15 degrés sans souffrir. Et il faut surtout se rappeler que l'humidité est le pire ennemi du confort. Donc, aérer absolument son logement, tous les jours, 10 minutes, et même quand il fait froid, et en respectant la formation d'un courant d'air entre deux ouvertures, qui sécheront donc beaucoup plus vite les murs. L'humidité exige beaucoup de chauffage pour sécher. Et sans aération, on a froid et on gaspille le chauffage. En plus, ça évite de conserver le gaz carbonique de nos respirations qui cause migraines et sinusites. Donc, ne jamais faire sécher le linge sur les radiateurs ni sur des séchoirs intérieurs dépliés à tringle, genre Tancarville. Ça imbibe les murs qui mettront des heures ou des jours à sécher. Ça cause un froid pénétrant. Et c'est jeter l'argent par les fenêtres.
allées où l'air est plus doux, où la colombe vole en dessous, où le printemps entre un jour comme un fou. Vous saisis au revers, au détour d'un chemin vert, et vous dit ça va pas comme ça. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout.
Aussi, pendant la préparation des repas et leur dégustation, on peut baisser un peu le chauffage dans la cuisine, puisque toute cuisson réchauffera la pièce plus ou moins. Et pour chauffer le contenu d'une casserole, couvrons la dite casserole avec un couvercle un peu trop grand. Ça empêche la chaleur qui monte à l'extérieur des parois de se gaspiller dans l'air ambiant. Ça concentre ses calories sur le contenu de la casserole. C'est bien ce que vous voulez, non? On gagne du temps. Le contenu de la casserole sera chaud ou cuit plus vite et on économise un peu de gaz ou d'électricité. Et puis la nuit, une couverture de plus ou une double couette permettront de ne pas chauffer à plus de 16 degrés. Ce qui est recommandé depuis longtemps. Et ça permet un meilleur sommeil. Et la couette permet de dormir en mode sarcophage, en enfermant bien le corps, qui est lui-même un chauffage à 37 degrés, comme chacun sait. Sans les ponts thermiques en bordure, que font draps et couvertures des lits faits au carré, comme à l'armée. Bien sûr, encore, on coupe tous la live box et tous les voyants inutiles quand on n'en a pas l'usage. On purge aussi régulièrement sa boîte mail, qui est un vrai panier percé à kilowatts, et qu'on néglige tellement. En plus, ça permet de prendre un abonnement moins cher. On peut virer en dossier personnel tout ce qu'on veut conserver. Ça ne mange pas de pain ni de kilowatts. On peut aussi mettre des miroirs, même petits, en face des ampoules électriques, qui diffuseront alors une lumière doublée. Bien sûr, en direction de l'intérieur de la pièce, hein, pas du mur. Toutes ces économies permettront rapidement de s'équiper en lave-vaisselle. Le meilleur système d'économie d'eau et d'électricité des foyers. À condition de ne pas prendre la machine pour une poubelle, évidemment. Non, je n'ai pas d'action chez les producteurs d'électroménagers. Je n'ai pas non plus de compteur Linky, mais je sais compter. Et vivre avec très peu. Quand le cycle est fini et la vaisselle sèche, on ouvre la porte sans vider tout de suite le lave-vaisselle. Ça fait récupérer la chaleur de la vaisselle et de la machine. Mais bien attendre le séchage terminé. Sinon, on récolte la vapeur. Très chaude, bien sûr, mais humide dans la cuisine. Et ça, on a vu comme c'est absurde. Vous êtes toujours sur 92.2, Contre-Histoire, à Radio Canal Sud. Les LED semblent le système économique majeur le plus récent. Mais les ophtalmologistes, qui sont rares et débordés par les atteintes rétiniennes des adeptes de cette modernité, les ophtalmos donc lancent l'alarme contraire. Ça fatigue la rétine, ou pire, ça la blesse. Et la rétine, ça se vend pas au maître. Pourtant, l'économie est tout à fait considérable. Alors, n'utilisant ces machins que pour des éclairages en partie supérieure, les plafonniers, qu'on ne regarde jamais fixement, et pas en salle de bain ou sur évier, où on en prend plein les mirettes. Pour économiser l'eau, il y a aussi plein d'astuces qui ne permettront pas de fermer les centrales nucléaires, certes, mais qui participent à la lutte contre l'épuisement des nappes phréatiques par ces temps de sécheresse. Et on est en hiver encore. Qu'est-ce que ça va être en été? Alors, il y a d'abord les mousseurs au robinet, qu'on installe soi-même. Petite grille très fine, de la taille de la section du robinet, et qui a une hauteur d'environ 2 pièces de monnaie. Elle multiplie les jets d'eau minuscules avec un effet de volume. C'est bête, mais on a l'impression d'ouvrir le robinet à fond, alors que le débit est vraiment réduit, pour le même résultat souhaité. Donc, consommation de moitié. Et on peut encore ouvrir très peu le robinet, si c'est pour se laver les mains. Un filet d'eau peut suffire. Il disperse moins vite le savon et permet donc un meilleur lavage. Et en plus, on peut réaliser une économie d'eau maximale en recyclant soi-même ces eaux claires, que sont les eaux de lavage des légumes, pour l'arrosage des plants, par exemple. Et des petites lessives à main, du rinçage des vaisselles à la main, etc., pour le lavage des sols. On peut encore prendre l'habitude d'essuyer son assiette avec un morceau de pain. Ça fera plaisir aux cuisiniers et cuisinières, pour qui c'est la preuve d'une cuisine réussie. Ça se fait pas dans le monde, paraît-il. Mais le grand monde, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être bien, sans nuire aux autres ni à la planète. C'est ça, la nouvelle éducation. J'espère que la baronne de Rothschild, qui s'est spécialisée dans le discours éducatif, m'écoute et mettra son manuel à jour. N'est-ce pas, Nadine ?
Je veux aller dans l'après-midi d'un jour où rien n'est interdit. Où le bonheur sans faire de comédie vous salue sans manière et vous parle à cœur ouvert et vous dit qu'est-ce que t'as bien fait de changer tout pour une vie qui vaille le coup. Changez tout, changez tout, changez tout, changez tout, changez tout. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? Après tout, changez tout, changez tout.
Et si on ne peut pas laver le sol parqueté ou moquetté, on peut recycler ces eaux-là dans les toilettes, en les conservant pour ça dessous l'évier ou le lavabo, sachant que les toilettes sont le premier poste de dépense d'eau par habitant en France. 3 litres pour pipi, 6 litres pour le reste, au minimum. Pareil pour la douche, où il n'y a pas besoin de faire pipi pour économiser l'eau. Une bassine dans la douche recueillera eau chaude et savonneuse prête à l'emploi dans les toilettes. Et si on installe en permanence une autre petite bassine dans le lavabo, où on se lavera les mains, on y recueillera environ 1 ou 2 litres d'eau savonneuse à chaque fois, soit le nécessaire pour économiser une chasse d'eau. On peut s'en servir aussi pour nettoyer tous les sanitaires. Et dans la cuisine, pareil. Si votre cousine, pas branchée, vous demande ce que c'est que ce seau avec de l'eau savonneuse bleue ou verte dans les toilettes, vous lui expliquerez que c'est l'eau de rinçage du superbe Pareo que vous aimez tant et qu'elle vous a rapporté de ses vacances exotiques, mais qui déteint terriblement et que vous ne voulez pas mettre en machine, ce qui vous permet de faire acte écologique dans vos toilettes modernes et économiques. Clouez le bec à la cousine ou à la voisine. Et comme vous ne fréquentez que des gens intelligents, elles feront la même chose en rentrant chez elles et la nappe phréatique remontera d'un cran. Et votre facture d'eau baissera d'autant. Autre petit truc de jardinier, l'eau de cuisson des féculents, surtout pâtes et pommes de terre, peut servir de désherbant hyper écolo. Pourquoi et comment, je ne sais pas. Mais ça marche. Encore plus, surtout, si vous la balancez encore chaude, évidemment. Mais attention, ce n'est pas du Roundup, c'est de la patate ou des spaghettis. Ce n'est donc pas un désherbant sélectif. Et ça n'est pas instantané. Mais c'est réel. La patience est une grande vertu agricole. Si vous avez un peu de jardin, installer un ou des récupérateurs d'eau de pluie est très facile et pas cher. Moins de 100 euros les 350 litres. Et formidable pour arroser gratuitement vos plantations. Je dis 100 euros parce que c'est facile à retenir. Mais les miens, je les ai payés beaucoup moins cher. Je les ai payés, je crois, le premier qui faisait presque 300 litres. On aurait dit une énorme poubelle. Je crois que je l'ai payé 45 ou 50 euros. Et l'autre qui est un peu plus grand, et puis qui a un robinet aussi, ce qui est très utile, j'ai dû le payer 65 ou 70 euros, pas plus. Dans les grandes surfaces de bricolage. Et puis on est très content quand on s'en sert et qu'on pense que ça coûte rien. Tant que nous y sommes, on peut aussi prendre l'habitude de n'utiliser le rouleau d'essuie-tout que par morceaux déchirés, à la seule mesure du besoin, plutôt que de débiter généreusement des feuilles entières quand la moitié ou le quart suffirait. Ça économisera nos forêts qui commence à en avoir sérieusement besoin. Les mouchoirs lavables et les serviettes de table en tissu existent toujours, figurez-vous. Et les machines à laver sont aussi écolo que les lave-vaisselle. Dans ce domaine, on sait bien que le PQ ne doit pas prétendre au confort moelleux, au parfum et aux coloris délicats, ce qui est absolument polluant. C'est la meilleure recette de bouchage total des toilettes. Les dépanneurs professionnels adorent, qui ne se déplacent jamais à moins de 100 euros, quand ils sont disponibles. Dans la liste des économies de consommables, c'est déjà pas mal, non? L'association Negawatt s'est spécialisée dans ces solutions de rechange au quotidien. Si vous avez d'autres idées, envoyez-les à Contre-Histoire à Canal Sud. J'en ferai d'autres émissions et en plus, mon profit personnel.
Changez tout, pour une vie qui vaut le coup. Changez tout, changez tout.
Je vous ai déjà parlé souvent de Bernard Laponche, polytechnicien, docteur en sciences en physique des réacteurs nucléaires, expert en politique de l'énergie et de maîtrise de l'énergie. Il a écrit le 24 mars 2011. Le caractère mystérieux de l'énergie nucléaire et la fascination scientifique qui l'entoure masquent pour beaucoup la réalité de son utilisation dans les centrales nucléaires. Il ne s'agit que de chauffer de l'eau sous une pression suffisante ou de la faire bouillir afin de produire de la vapeur produisant à son tour de l'électricité grâce à un turbo-alternateur, comme dans une chaudière à charbon. Un réacteur nucléaire est une chaudière dans laquelle la chaleur, au lieu d'être produite par la combustion du charbon, par exemple, est produite par la fission des noyaux d'uranium-235 contenus dans le combustible. Combustible présenté en forme de longues tiges ou crayons d'uranium ou d'oxyde d'uranium. Le noyau d'un atome est composé de neutrons et de protons. La fission est une explosion du noyau d'uranium en éléments multiples qui donnent même naissance à d'autres produits de fission, morceaux du noyau initial et neutrons qui, à leur tour, vont provoquer des fissions dans les noyaux voisins. C'est ça, la réaction en chaîne. Ces produits de fission sont propulsés à grande vitesse par cette explosion, provoquant la montée en température du combustible. Ces produits sont instables et donc fortement radioactifs. Ils émettent des rayonnements qui produisent à leur tour un réchauffement du combustible. L'entretien de la réaction en chaîne dans le réacteur permet de chauffer l'eau ou de la faire bouillir sous une pression suffisante pour produire de la vapeur avec laquelle on produira de l'électricité. Dans les réacteurs du type de ceux équipant presque toutes les centrales nucléaires au monde, la chaleur du combustible est évacuée dans l'eau. C'est le cas des réacteurs à eau sous pression. Ou par la vapeur, produite par l'ébullition de l'eau. C'est les réacteurs à eau bouillante. Le but d'un réacteur nucléaire, c'est de produire cette chaleur. L'inconvénient est que cette chaleur est accompagnée de matières radioactives extrêmement dangereuses. Le but des protections de sûreté nucléaire est d'empêcher que ces matières radioactives s'échappent du réacteur par accident. Ça détruirait les différentes protections du combustible là où se produit la réaction en chaîne. Vous savez, là, ce qu'on appelle le cœur du réacteur. en situation normale. Par exemple, pour remplacer les combustibles usés par des combustibles neufs, ou alors en situation d'alerte, quand il y a un accident possible, on arrête la réaction en chaîne grâce à des barres de contrôle. Barres dont le matériau absorbe les neutrons. Si on absorbe les neutrons, évidemment, ça s'arrête. Mais du fait de la chaleur que continuent à produire les produits de fission radioactifs, il faut absolument continuer à refroidir les combustibles et donc à faire circuler l'eau de refroidissement. L'accident le plus redouté est l'arrêt du refroidissement. Soit du fait de défaillances techniques dans le fonctionnement des systèmes de sécurité, c'est l'accident de Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Soit du fait de la perte d'alimentation électrique des pompes. Il y a des défaillances de réseau, la panne des équipements diesel de secours, par exemple, à cause d'une inondation, comme on a eu au Blayais en 99 et que c'était moins une. Ou encore de la destruction des salles des machines, c'est l'accident de Fukushima. Si le cœur du réacteur n'est pas refroidi, la chaleur résiduelle qui reste forte conduit à la détérioration du combustible qui peut aller jusqu'à fondre, partiellement ou totalement. Du fait d'un enchaînement de pannes de certains dispositifs techniques ou de la production d'hydrogène ou de fuites éventuelles, on arrive non seulement à la destruction interne du réacteur, mais aussi à la projection à l'extérieur de quantités plus ou moins considérables de gaz et de matières radioactives. Décalage effrayant entre le drame de Fukushima et le but de ces réacteurs aujourd'hui en perdition. Faire bouillir de l'eau. Il existe de multiples moyens de faire chauffer ou bouillir de l'eau et de produire de la vapeur à 300 degrés. Alors c'est de l'eau-vapeur dans un réacteur à eau bouillante ou de l'eau sous pression à 320 degrés dans un réacteur à eau pressurisée. Ces températures sont relativement basses, d'où le mauvais rendement des centrales nucléaires dont les deux tiers... sont gaspillés dans l'atmosphère ou dans les rivières. On arrive au même résultat par la combustion du charbon, qui est peu recommandé maintenant à cause du CO2 que ça produit. Il y a aussi le gaz naturel qui est meilleur grâce à la cogénération de chaleur et d'électricité, ou encore par le système du cycle combiné à haut rendement pour production d'électricité. Il y a aussi la biomasse, c'est-à-dire le bois, les déchets végétaux et le biogaz dont on parle beaucoup, qui inquiète un peu parce qu'il contient beaucoup de méthane, mais on peut extraire le méthane. Ça demande des investissements, mais c'est possible. Et en plus, le métal en question, on peut le recycler dans l'engrais. On peut aussi capter le rayonnement solaire concentré par des miroirs pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le solaire thermodynamique. Il existe aussi de nombreux moyens de produire de l'électricité sans faire bouillir de l'eau. Les barrages, hein, c'est l'hydraulique. Les gros barrages ou les petits barrages, hein, au fil de l'eau. L'éolien, le solaire photovoltaïque, le solaire thermodynamique, hein, avec les miroirs dont on a parlé tout à l'heure. La géothermie à haute température, les énergies marines, marée motrice, énergie des vagues, hydroliennes, les hydroliennes qui sont des répliques des roues à aubes des transports d'autrefois, qui utilisent les courants pour faire de l'électricité. Et puis il y a encore l'énergie thermique des mers. Toutes ces techniques ne sont pas industriellement développées et certaines restent plus chères que les centrales thermiques. Mais évidemment, aucune n'a bénéficié des soutiens publics colossaux qui ont accompagné depuis l'origine le développement de l'énergie nucléaire. Et oui, on a fait les mauvais choix. Enfin, nous, pas nous, les pouvoirs successifs. Toutes peuvent présenter certains risques, mais aucune ne présente le danger terrifiant, étalé dans le temps et dans l'espace, de la catastrophe nucléaire. L'ingéniosité humaine a su maîtriser le feu il y a 400 000 ans, et a inventé et développé depuis des machines si astucieuses, comme le vélo et le train, parmi les plus remarquables. On ne peut pas croire que l'on n'est pas capable de développer rapidement et à grande échelle toutes ces énergies renouvelables. On peut donc se passer du nucléaire sans se priver d'électricité. De plus, et surtout en France, la priorité est la sobriété pour notre sécurité énergétique et face aux risques climatiques. Il faut réduire sa consommation d'énergie par la sobriété et l'efficacité énergétique dans les pays les plus riches et pour les populations les plus riches. Dans un grand quotidien français, quatre supporters des centrales nucléaires ont écrit « Il existera toujours et partout un scénario dans lequel une catastrophe comme celle de Fukushima pourra se produire ». Et cette phrase est au futur et pas au conditionnel. Donc il faut être prêt. Il faut donc se dire que l'humanité doit s'habituer à de telles catastrophes, de temps en temps. Tous les combien? Tous les 10 ans? Ou moins? Dans un pays, et puis dans un autre, le rythme des accidents s'accroissant, avec le nombre des pays qui choisiraient le nucléaire. Eh ben non! Un tel futur est inacceptable. Nous préférons construire et vivre un futur énergétique plus simple, plus sobre et ensoleillé. C'était le message de Bernard Laponche. Message que j'ai un peu compacté en langage radio. J'espère qu'il ne m'en voudra pas et me permettra de vous transmettre encore ces alertes vitales.